la communauté des Moulins Chéma à l'époque, que j'ai dit ce matin avec le Rav Etan Fison sur le sujet du mois d'Iyar, la Corée, etc. Boker Tov à tous.
Boker Tov les Koulam. Boker Tov. Alors j'ai envie de te dire Chag Sameach. J'espère que vous avez bien fait des Medourot par Zoom, chacun chez vous. Moi, je vous avoue que j'ai médouré sur ma terrasse. Je me suis servi des restes de mon barbecue d'Yom HaAtzmaout. J'en ai mis du bois dedans et j'en ai fait une petite médoura qui a duré 12 minutes. Ça, c'était de la médoura de compétition. Et voilà ce matin. Alors, le Rav Benchal a dit qu'il fallait parler de l'Akba Omer. Donc, on va parler de l'Akba Omer, mais en fait, on va rentrer l'Akba Omer dans un contexte. Et ce contexte, c'est pas le contexte historique de l'Akba Omer. Ça, on a déjà fait plusieurs cours là-dessus. Et j'imagine que le Rav en a parlé également. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, tout ça. Donc, on va pas parler de ça du tout. Nous, on va parler de l'Akba Omer de manière intemporelle, c'est-à-dire dans sa place dans l'histoire. Qu'est-ce que je veux dire par là, dans sa place dans l'histoire? Eh bien, c'est vrai que c'est l'Akba Omer, évidemment, mais ce l'Akba Omer se trouve également dans un calendrier. Et dans le calendrier, eh bien, comme vous le savez, l'Akba Omer, c'est également en plein milieu du mois de Iyar. Oh là 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 là, ça y est, ça commence. Allô, on m'entend? C'est bon? Non, parce que il paraît que quand on nous appelle sur Zoom, eh ben, ça arrête le Zoom. Donc voilà.
On cadre aussi un petit peu, baisse un petit peu des caméras.
Comme ça?
Voilà, super.
Ça marche. Alors attends, voir. Hop, là, je le cale. C'est bien. Oh là là, c'est pas possible. Annie Ben, ça chiour, Geveret? לא חשוב עכשיו, לא חשוב, ביי ביי. לא 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 לא, je te jure. Attends, je reviens, où es-tu?
Je sais pas, moi je te vois plus, je sais pas que c'est moi le problème,
je sais pas. Attends, Iné, je reviens, je suis là, je suis revenu. Je suis revenu. Voilà. Normalement, il n'y aura plus de problème. Donc, tout ça pour dire, Abotai, que le mois, l'Akba Omer se trouve dans un mois, à savoir le mois de Iyar. Et ce matin, on va parler un petit peu de ce mois de Iyar. Parce que c'est quand même le mois où il y a le plus de moments particuliers. Si on y réfléchit bien, vous allez me dire, non, c'est pas vrai. Dans le mois de, par exemple, Tishrei, nous avons Rosh Hashanah, nous avons Yom HaKippurim et nous avons les 8 jours de Sukkot. Donc ça fait déjà un mois avec pas mal de fêtes dedans. Oui, Zénachon. Mais si on regarde en termes d'événements séparés, eh bien le mois de Iyar pèse dans la balance. Puisque dans le mois de Iyar, nous avons tout d'abord Rosh Chodesh Iyar, et on va voir ce qui s'est passé. Nous avons également Yom HaAtzmaout, nous avons également Pessah Sheni, nous avons également l'Akba Omer, nous avons également Yom Yerushalayim, nous avons également c'est déjà pas mal. Donc c'est un mois qui est très particulier. On va essayer de voir quelle est la force particulière du mois de Iyar. Alors Dorcher et Shumot, c'est-à-dire ceux qui essayent de comprendre un petit peu les idées qu'il y a derrière les mots, eh bien, nous ont expliqué que Iyar, c'était les rachets et votes, les initiales du mot, de la phrase Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. En fait, Ani Hashem Rofecha, c'est les mots qui viennent conclure, et on en avait parlé pendant notre cours sur Yom HaAtzmaout, ce sont les mots qui viennent conclure la Shirat Hayam, puisqu'on avait dit que la Shirat Hayam se termine à Mara, et là-bas, eh bien, on termine l'histoire en disant Ani Hashem Rofecha. Et on avait expliqué dans notre cours qu'il s'agissait là du Shabbat annonciateur de Rosh Chodesh Iyar. Shabbat Mevarchim Iyar. En d'autres termes, Iyar Ani Hashem Rofecha. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Eliezer Hamawi, qui était un des grands maîtres de Halab, de Chachmé Souria, qui avait dit « Iyar, c'est le mois de la réussite du peuple juif. » C'est-à-dire, Nissan, c'est le mois de la réussite d'Akadosh Baruch Hu. Bon, vous allez me dire, il n'a pas besoin de mois de réussite. Tous les mois sont sa réussite. Mais Nissan, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu dévoile comment il a envie de gérer son monde. Iyar, c'est le mois où la charvite, où la balle est donnée dans le camp des Bnei Israël. À vous de jouer, nous dit Dieu. Et c'est pour ça que... Attendez, je vais juste... Voilà. Parce que la machine, elle fait du bruit. Donc, c'est à ce moment-là que je voudrais lancer notre cours avec un texte du Rav Kook. Un texte du Rav Kook qui est très, très important, qui se trouve dans Enaya. Dans Enaya, donc son commentaire sur la Gemara, sur soit le traité de Shabbat, soit le traité de Brachot, eh bien, dans le Enaya de Shabbat, Bet, nous dit le Rav Kook la chose suivante. Alors, ceux qui sont intéressés, ceux qui ont un Enaya sous les yeux, c'est à la page 185, dans les grands formats de Enaya. Eh bien, nous dit le Rav Kook la chose suivante. Azman, le temps. Yeshlo truna atzmit, vetruna emtsait. Le temps a une dimension propre à lui et une dimension qui dévoile des choses. Truna atzmit mitzad otam haofaot ve'arevachim, ha'idunim va'inugim shel azman ahu be'atzmo. C'est-à-dire qu'il y a une force intrinsèque au temps et au moment où les choses se passent. Ve'emtsait, hi mitzad oto ha'tochen sheze azman ha'marshir u'mechin le'madrega yoter eliona. ומלאה מזו שהיא בעצמו מוכשר לזה, בנקודה העתידית, בחוגו המיוחד לו. C'est-à-dire que le temps a une force au moment T, mais il a également une force pour dévoiler ce qui va arriver. Je vous explique en français, parce que ça c'est du cookiste. Abraham Avinu nous dit le Midrash qui va faire Pessah. Yitzhak Avinu pareil, qui va demander qu'on lui donne « Shtek Dei Izim » parce que c'était le 15 Nissan. Lot fera des matzot à ses anges qui arrivent chez lui parce que c'était le 15 Nissan. Et on se pose la question, mais attendez, je ne comprends pas, on n'est pas encore rentré en Égypte, comment tu peux fêter la sortie d'Égypte? Ça veut dire que le 15 Nissan est en soi un moment de libération. Et ça, c'est vrai depuis que Dieu il a créé le 15 Nissan. Mais, eh bien, il porte en lui également la force qu'un jour, dans l'histoire, le 15 Nissan devienne Pessah. D'accord? Donc, il en va de même pour toutes les dates et donc pour tous les mois. C'est pour ça que le Rav Kook continue et dit « Bachodashim metohar adavar betiur achodesh amale veachaser » Cette dimension de temps intrinsèque et de temps en potentiel, eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans les mois pleins et les mois incomplets. Vous savez que les mois, ils peuvent être soit de 29 jours, soit de 30 jours. Eh bien, nous dit le Rav Kook, c'est ce qu'on retrouve. Oto Achodesh, ce mois de Iyar, dont on va parler ce matin. Oto Achodesh, Amamtia Eben Haofaot Yetziat Mitzrayim Leofaat Matan Torah, dit ce mois incroyable de Chodesh Iyar, il se trouve entre la sortie d'Égypte et entre le dévoilement de Dieu au Mont Sinaï. Donc il dit ce mois-là qui est au milieu de ces deux moments incroyables, Mitzad Yirhuso El Agodel, Sikha Shebeola, Shebeola Moadim, Yeshlo To'ar Shebeshel Mamtia. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que ce mois de Iyar n'est qu'un mois de transition. Il va entre Pessah et Shavuot. On avait besoin d'un mois pour faire le lien entre les deux, bah on a le lien. Et que donc, il n'est pas un mois important en tant que tel. Aval, on peut le voir également autrement. On peut le voir également comme étant, et ça, j'imagine que vous en avez déjà parlé, nous, on en a déjà parlé dans des cours précédents, c'est le mois qui est le seul à être complètement le mois de Sfirat HaOmer. C'est-à-dire que c'est un mois qui, en fait, nous fait comprendre que chaque moment dans ce mois a une importance. Et en fait, eh bien, on va se rendre compte que ce mois de Iyar, est-ce qu'il était plein ou est-ce qu'il était chasser ? D'habitude, le mois de Iyar est chasser. Mais on va nous raconter, le Rav Kook nous explique, par un calcul tout simplement de Psukim, que le mois de Iyar, lors de la sortie d'Égypte, n'était pas chasser. Il était plein. Il faisait 30 jours. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire qu'il était une force intrinsèque et non pas seulement un moyen d'arriver à. En d'autres termes, le mois de Iyar tel qu'il est, ben, tout simplement vécu pour la première fois en tant que Iyar dans le peuple juif, eh bien, il a une force intrinsèque. Quelle est cette force ? Alors, peut-être que vous le savez, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez, vous savez que la Kabbalah, alors c'est totalement d'origine, juste, je vais vous demander, ah oui, je suis désolé, je suis pas tout prêt ce matin, c'est n'importe quoi, c'est l'Akba Omer, je vais chercher un chargeur 2 secondes, parce que sinon tout va s'éteindre. 2 secondes.
J'en profite, petit stage d'information, de publicité, juste après mon cours du Rav Benishai en hébreu, il parlera de la caverne, il parlera de la sortie de Rabbi Shimon de la caverne, selon le Rav Kook. Cet après-midi, on a cours avec le Rav Ackerman, cours avec le Rav Ackerman cet après-midi à 6h, sur aussi le sud de la caverne, et ce soir, cours sur la fila avec le Rav Ackerman.
C'est bon. Alors moi je vous le dis, hein, moi j'en ai marre de ces cours en Zoom. Hein. C'est quand même plus facile quand on est en face des gens, on peut pas se charger. Et on a de la batterie en face des gens. Mais enfin bon, c'est pas très grave. Rabotai, donc, le mois de Iyar, vous le savez, la Torah ta Kabbalah s'est infiltrée et Bessimcha dans notre vie. Et donc je sais pas si vous avez ça dans vos sidourim, mais dans mon sidour par exemple, lorsque je fais, par exemple, le Moussaf de Rosh Chodesh, et que on fait la bracha Baruch Ata Hashem, Ken, Verashe Chodashim, Mekadesh Israël, Verashe Chodashim, eh bien, j'ai une petite astérix qui me renvoie à un tableau. Et là, ça nous vient de la Kabbalah, qui nous dit qu'il y a, en fait, un verset de la Torah, du Tanakh, qui correspond à chaque mois. Et en fait, c'est quoi ce verset qui correspond à chaque mois ? Eh bien, c'est une combinaison différente des lettres du tétragramme. Par exemple, quand on voit le mois de Nissan, le premier mois, eh bien, le verset qui lui correspond, c'est « Yismechu ha-shamayim vetagel ha-aretz ». Et donc, on voit les lettres du tétragramme dans le bon ordre. « Yismechu ha-shamayim vetagel ha-aretz ». Yud, ensuite « Hey », ensuite « Vav » et ensuite « Hey ». Pour le mois de Iyar, eh bien, le verset qui nous intéresse, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement le verset de Yeshaya qui nous dit « Yitalel hamitalel haskel veyadoa oti ». En fait, le verset en entier, c'est « Ki in bezot hamitalel, yitalel hamitalel haskel veyadoa oti ». En d'autres termes, il semblerait que le mois de Iyar, je vais traduire le verset, c'est « Ki in bezot avec cela, yitalel hamitalel » dira le Hallel, celui qui dit le Hallel, seulement celui qui réfléchit et me connaît. C'est ça la force du mois de Iyar. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire une chose très importante. Vous savez, lorsqu'on sort d'Égypte, Akadosh Baruch Hu va utiliser les termes de délivrance. Vous les connaissez, on en a parlé à Pessah. Veotseti, veitzalti, vegaalti, ve la karti. Mais il y en a un cinquième, veveti etrem. Seulement, pour arriver à ce cinquième, eh bien, on nous dit quelque chose. Il y a un verset entre les deux. Pour arriver à veveti eladmatrem, eh bien, on nous dit vidatem ki ani Hashem. Et vous devrez savoir que je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. J'ai envie de te poser la question. Bah, on doit savoir que Dieu nous a sortis d'Égypte. Bah, c'est facile. T'as qu'à ouvrir les yeux, tu vois les 10 plaies, tu sais bien que c'est Dieu.
Et donc, évidemment que savoir que Dieu nous a sortis d'Égypte à Pessah, ça n'a rien d'extraordinaire. Savoir que Dieu nous sort d'exil alors qu'il n'y a pas de diplée, qu'il n'y a pas d'ouverture de la mer Rouge, ça c'est un autre travail. Et c'est pour ça que pour arriver à Vidatem, qui nous fait arriver à Veti et Tremel Haaretz, qui nous fait arriver à Je vous ramènerai en terre d'Israël, eh bien pour arriver à cela, il faut qu'Aniré, semble-t-il, Haskel Veyadoaoti. Il faut être un tout petit peu avec cette réflexion pour connaître Dieu. En d'autres termes, en Nissan, Dieu ne nous laisse pas le choix que de le voir. En Iyar, la balle est dans notre camp. Est-ce qu'on va voir que c'est à nous de dévoiler Dieu ou pas? Et c'est pour ça que nous dit donc Rabbi, Rabbi Avraham Hamawi, de ses maîtres de Halab, de Syrie, eh bien, qui nous disait que le mois de Iyar, c'est le mois où le peuple d'Israël s'exprime et se réalise. Donc, je vous propose de rentrer dans ces différents moments. Alors, on ne va pas trop rentrer dans le sujet de Yom HaAtzmaout parce qu'on l'a déjà fait, et on ne va pas trop rentrer non plus dans le sujet de Yom Yerushalayim parce qu'on le fera certainement. Mais qu'est-ce que c'est que la base du Chodesh Iyar? Vous le savez, la force du mois, c'est le milieu du mois, c'est lorsque la lune est pleine. Le 15 du mois de Iyar, le 14 et le 15 du mois de Iyar, eh bien c'est quoi? C'est Pessah Sheni. Pessah Sheni, c'est un moment extraordinaire. Pourquoi c'est un moment extraordinaire? Eh bien pour une raison très simple. Pessah Sheni, c'est une fête unique. Unique en son genre. Il n'en existe aucune autre de la sorte. Ça veut dire quoi, aucune autre de la sorte? C'est quoi une fête unique en son genre? En quoi elle est unique? Je vais te dire. C'est la seule fête. Ça n'a pas empêché les fils d'Israël de penser que c'était Moshe et pas Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ah, voilà une idée qu'elle est bonne. Tu as totalement raison. C'est effectivement un grand problème. Les fils d'Israël, quand on est sorti d'Égypte, pensaient que c'était Moshe le patron. Et ont eu un problème. Enfin, ils ont eu un problème jusqu'à la mer Rouge, qui n'était pas rouge, hein, évidemment. Mais jusqu'à la mer, ils ont eu un problème. Au moment de la mer, le problème s'est dissipé. T'inquiète pas, il est revenu après. Mais il s'est dissipé. Pourquoi il s'est dissipé? Eh bien, pour une raison très simple. Lorsque la mer s'ouvre, il voit, comme on l'a vu dans le cours sur Matzmaout, il voit le dévoilement de Dieu. Et donc, ils disent « Zé li ve'andehu ». C'est pour ça que lorsqu'on va chanter, eh bien, on va dire juste avant que « Vayaminu ba'Hashem ou Moshe avdo ». Qu'est-ce que ça veut dire ?« Vayaminu ba'Hashem ou Moshe et minu she'urak avdo ». C'est-à-dire qu'ils ont eu foi en Dieu et ils ont compris que Moshe n'était que le serviteur de Dieu. Certes, malheureusement, après, quand il n'y a plus ce dévoilement aussi évident de la mer, eh bien, Moshe, c'est pas de sa faute, mais il reprend toute la place. Zénachon. Et finalement, il va falloir attendre jusqu'à la mort de Moshe pour que finalement les Bnei Israël retrouvent leur lien avec Dieu. Zénachon, c'est caché. Mais grâce à Dieu, nous n'avons plus de Moshe Rabbeinu. Je dis grâce à Dieu, pourquoi? On espère tout ce qui va revenir. Nishmat Moshe doit revenir. Nachon. Mais elle reviendra lorsqu'on sera prêt. Prêt à quoi? Eh bien, prêt à avoir Moshe et ne plus avoir les travers des Bnei Israël. Aujourd'hui, quand tu vois le lien qui est tissé envers certains rabbins, qu'on les prend pour, j'ai pas envie de dire quoi, on se dit c'est peut-être pas une mauvaise idée qu'il n'y ait pas de Moshe Rabbeinu. Parce que je suis pas certain qu'on serait capable de trouver qu'il n'est que Avdo. Donc, Baruch Hashem, que, par exemple, à la communauté de Emunah Shlema, vous avez un Talmid Chacham énorme qui est à votre tête et qui est suffisamment grand pour faire en sorte que les gens de la communauté ne le voient pas comme étant un suppléant de Dieu, mais comme étant celui qui essaye d'enseigner la voie d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la grandeur des rabbins qui sont les vrais grands rabbins, qui ne sont pas mis sur des piédestals, mais justement qui sont les grands maîtres de notre génération, qui, tout en nous enseignant une Torah extraordinaire, ne nous enlève pas notre place, notre rôle à jouer. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Moi, je sais que j'ai la chance donc de côtoyer le Rav Ben Ishay, mais le Rav Cherki également, surtout, qui a toujours comme enseignement de dire à ses élèves, mais à toi de voir. C'est à chaque fois que je dois lui poser une question, je ne parle pas d'une question de halakha, mais une question de manière générale sur la vie, il me dira toujours d'abord, avant de me dire ce qu'il en pense, il me dit, ma ta chochev. Qu'est-ce que toi t'en penses? C'est-à-dire qu'il ne faut pas annuler le Ben Israël. Le Ben Israël, c'est à lui que la Torah a été donnée, pas seulement au rabbin. Donc, effectivement, avec Moshe, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, bah, Baruch HaShem, on a des rabbins qui font très bien le boulot. Donc, tout ça pour dire que lorsqu'on est sorti d'Égypte, bah, c'était facile de savoir. Le mois de Iyar, je disais, Pessah Sheni est une fête unique en son genre. Pourquoi unique en son genre? Eh bien, parce que c'est la seule fête qui est... Alors, il n'empêche pas l'autre. Il faut avoir des grands rabbins pour l'enseignement, mais pas seulement. Bien sûr! Mais bien sûr! C'est ce que je suis en train de dire. Les grands rabbins, ils sont pas seulement là pour être grands pour l'enseignement, ils sont là également pour donner une direction dans la vie. Mais il y a une différence entre celui qui te dit quoi faire et celui qui t'aiguille quoi faire. C'est pas la même chose. Il y a celui qui te dit, en fait, qui te mâche le travail, et voilà, et celui qui, comme nous dit Johan, qui nous fait grandir. C'est toute la différence, Rabotai. Donc, tout ça pour dire, Rabotai, que le mois de Iyar, je vais pas y arriver, hein, mais le mois de Iyar et ce Pessah Sheni est très particulier parce que c'est la seule fête qui est d'Oraïta, qui a été donnée par Dieu, mais qui est insufflée par les Bnei Israël. Ben oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Pessah Sheni? Eh bien, c'est très simple. On arrive à la deuxième année de la sortie d'Égypte. Moshe nous dit, il faut faire Pessah. Jusque-là, pas de problème. Et tout d'un coup, arrivent des gens qui viennent voir Moshe et qui lui disent, Sira, on a un problème. Anachnut meim le nefesh adam. Alors, il y a plusieurs sources qui divergent. Je veux savoir qui sont ces gens-là. Est-ce que ce sont les gens qui portaient le tombeau de Yosef? Est-ce que c'était Michel et Safan, les cousins de Nadav et Avihu, qui venaient de sortir Nadav et Avihu de l'inauguration du Mishkan? L'homme est chané. On a des hommes qui viennent voir Moshe et qui disent « On ne peut pas faire Pessah, on est Tmeim. Que faire ?» Ben oui, c'est une vraie question. Ils viennent de s'occuper d'un mort. Donc, ils sont tmeïm, ils sont impurs. Ils ne peuvent donc pas faire le Corban Pessah. Mais, attendez, est-ce qu'ils ont fait une avéra? Non. Est-ce que c'est de leur faute s'ils sont impurs? Et au contraire, c'est une mitzvah, ce qu'ils ont fait. Donc, eh bien, donc, comment aurait dû réagir Moshe s'il avait été un rabbin actuel? Eh bien, Moshe aurait dit, écoutez, Be'ezrat Hashem, Anus Rachamana Patre, tu ne peux pas, ben c'est pas grave, Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, tu feras un Pessah, la folie. C'est comme tous les rabbins cette année. Il y avait le corona avec tous les problèmes, on n'a pas pu prier Beminyan comme il faut à Pessah, nanana. Ben, tous les rabbins de communauté ont dit, Be'ezrat Hashem, l'année prochaine, on fera un Lel HaSeder communautaire de malades et on s'invitera tous et ça sera génial. Bon? Ben, Moshe, il aurait dû leur dire, oh, Botaï, l'honora, vous pouvez pas faire Pessah cette année, mais Bezrat Hashem l'année prochaine. Est-ce qu'on a déjà entendu un rabbin qui dit, vous pouvez pas faire Sukkot, Arba Taminim, il n'y a pas? Ben, écoutez, pas de problème. Qu'est-ce que vous faites dans un mois? Hein, Cheshvan? Sukkot Sheni, qu'est-ce que t'en penses? Absolument pas. Dans la Torah, on voit que ces gens viennent voir Moshe et Moshe ne sait pas quoi faire. Il ne leur dit pas, écoutez, l'année prochaine. Il dit, vous savez quoi, c'est un vrai problème. Je vais demander au patron. Et lorsqu'il va demander au patron, eh ben Dieu va nous donner les lois de Pessah Sheni. La question, c'est pourquoi ces gens sont tellement en stress? Ben, ils ne feront pas Pessah, ils ne feront pas Pessah, l'honora. Eh bien, tout simplement parce qu'ils comprennent que s'ils ne font pas Pessah, ils arriveront à la case Mahamad Har Sinai, la case Shavuot, sans être passés par la case Pessah. Pessah, c'est la libération nationale. Mahamad Har Sinai, c'est le dévoilement de Dieu au peuple. Eh bien, les gens comprennent très bien qu'il ne peut pas y avoir de don de la Torah sans passer par la case nation. Il ne peut pas y avoir de Shavuot sans Pessah. Il ne peut pas y avoir de dévoilement du Créateur à un peuple juif si ce peuple juif n'est pas au préalable une identité libre. Et ça, les Bnei Israël le comprennent très bien. Et c'est pour ça qu'ils vont instaurer d'eux-mêmes ben, la force de Pessah Sheni. C'est eux qui vont se lancer dans cette histoire-là. C'est eux qui vont dire on ne peut pas arriver de Nissan à Sivan sans passer par le mois de Iyar. Ceux qui vont donner la force au mois de Iyar, c'est les Bnei Israël. C'est eux qui vont lancer la première trouvaille. Et comme on avait dit à Yom HaAtzmaout, c'est également eux qui avaient ressenti dans ce Shabbat Mevarim Rosh Chodesh que c'était là que tout commençait. Pessah Sheni, c'est la seule fête qui est marquée dans la Torah, de Horaïta, mais qui vient des profondeurs de la volonté du peuple juif. Maintenant, si on regarde deux secondes de plus près, qu'est-ce que c'est que ce Pessah Sheni ? C'est quoi ces halakhot ? Eh bien, c'est tout celui qui n'aurait pas pu faire Pessah Rishon, mais pour deux raisons. Nous dit la Torah, ou parce qu'il est tamé, ou parce qu'il est bederech rechoka. Tamé, dans le langage, on va dire plus tard rabbinique, c'est que yesh lo averot, yesh lo tumat achataim. Derech rechoka, c'est galout. Le plus loin par excellence, c'est quand tu n'es pas en Israël, tu es bagalout. Donc quand tu es bagalout ou quand tu es malé chataim, bah, tu ne peux pas amener ton korban. Aval nous dit le pasouk. Aval im taor hu ou bederech loaya. C'est-à-dire s'il n'est plus en exil et qu'il est Tahor, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de faute. Comment on pourrait appeler quelqu'un qui est pas en exil et qui est sans faute? On appelle ça un religieux. Un religieux qui habite en Israël. Nous dit la Torah, s'il y a quelqu'un comme ça, « Vechadal mila asot ata Pessah », mais c'est-à-dire que ce personnage-là, qui est en Israël et qui est religieux, refuse de s'attacher à la libération nationale d'Israël, ce qui est Pessah, venirreta anefeshaim et amea. C'est-à-dire, imaginez-vous un cas purement théorique, quelqu'un qui se comporterait selon le Shulchan Aruch, qui habiterait en Israël et qui refuserait de s'attacher au fait de libération nationale d'Israël. Bon, je sais bien que c'est quelque chose de purement théorique, qui ne peut pas arriver, mais si jamais ça devait arriver, eh bien, la Torah nous dit « Venir reta anefeshaim et amea ». Donc, heureusement que c'est purement théorique. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on va un petit peu plus loin dans cette réflexion-là, eh bien, on se rend compte qu'en fait, Pessah Sheni n'est que le point de départ de ce qui va amener les différentes fêtes, les différents moments de réussite du mois de Iyar. Alors évidemment, Yom HaAtzmaout, on en a parlé, reparlé, reparlé. Beseder Gamour. Mais il y a un truc qu'on n'a pas dit sur Yom HaAtzmaout. Il y a un truc qu'on n'a pas dit sur Yom HaAtzmaout qui est fondamental. Vous savez, il y avait un grand maître du judaïsme il y a 250 ans qui s'appelait Rabbi Shneor Zalman de Lehadi, plus connu sous son nom le Admour Azaken. Ou alors le Baal HaTanya, ou alors le premier fondateur de la Chassidoute de Chabad, de Lubavitch. Eh bien, le premier rabbi de Lubavitch nous écrit quelque chose de fondamental dans l'Ikouté Torah. Vous savez, il n'a pas écrit que le Tanya, il a écrit également l'Ikouté Torah. Et là-bas, donc dans l'Ikouté Torah, il a écrit d'autres livres également, mais là-bas, dans l'Ikouté Torah, il explique quelque chose de fondamental. Il dit que, vous savez qu'il y a une halakha, il ne dit pas dans l'écouté Torah, il dit dans Shulchan Aruch Harav. Il a écrit un Shulchan Aruch, le Admor HaZaken, qu'il appelle Shulchan Aruch Harav. Et il explique là-bas, à propos de la halakha qui nous dit que 30 jours avant Pessah, il faut commencer à étudier les lois de Pessah. Nous dit le Admor HaZaken que cette loi-là, c'est quoi sa base dans la pnimiut, dans l'intériorité de la Torah? C'est qu'en fait, 30 jours avant la fête, c'est là que se dévoile l'essence de la fête. Et donc, il explique que l'essence de Pessah, c'est Pourim, et il a toute une explication magnifique là-dessus. Mais le chidouche du Admor HaZaken, c'est qu'il dit que ce n'est pas vrai seulement pour Pessah, mais c'est vrai pour chaque fête. Chaque fête voit l'essence de sa fête 30 jours avant. Tom, il a fait merde. Il a fait merde. Donc vous avez compris que l'essence de Pessah Sheni, c'était Pessah Rishon. Tout ça, vous avez compris. Mais vous voyez où je veux en venir? Non? Toujours pas? Bon, évidemment que l'Admor HaZaken ne savait pas à quoi il s'exposait en écrivant cela. D'autant plus quand on sait quel est le rapport de des Chabadnikim à Yom HaAtzmaout. Ben oui, évidemment. Merci Mélanie. L'essence de Shavuot, l'essence de Mahamad Har Sinai, de Matan Torah, c'est 30 jours avant donc. C'est-à-dire, c'est Yom HaAtzmaout. L'essence du moment où on peut avoir une véritable Torah et un dévoilement de Dieu, c'est lorsque Am Israël est libre. En d'autres termes, le 5 du mois de Iyar, eh bien, c'est tout simplement l'essence, la base, le point de départ d'un véritable rattachement à Dieu, d'un véritable dévoilement de Dieu. Comment ça s'est dévoilé dans l'histoire? Medinat Israël. Medinat Israël est l'essence, la base du moment où Dieu pourra se dévoiler à nous. En d'autres termes, eh bien, c'est une autre réussite du peuple juif. Si Pessah Sheni est le moment où Am Israël a montré qu'il voulait volontairement s'attacher à la destinée du peuple juif, Yom HaAtzmaout est le moment où Am Israël a montré, même s'il n'en est pas conscient, même s'il n'est pas toujours conscient, qu'en fait, c'est quoi Yom HaAtzmaout? C'est un appel à un dévoilement de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose auquel j'ai réfléchi ce matin en préparant le chargeur que je n'ai pas bien préparé, en préparant l'ordinateur que j'ai mal mis en place. Mais Kitsour, je me suis dit, mais c'est incroyable. Vous savez, dans certains milieux où on n'est pas très fan de Ben Gurion, de Yom HaAtzmaout, tout ça, on dit, c'est quoi le grand grief qu'ils ont contre les Tzioinim? Bah, dans le monde, on va dire... orthodoxe, qu'est-ce qu'on reproche? Non, pas orthodoxe, parce que nous sommes tout autant orthodoxes qu'eux, mais dans ce qu'on va appeler Haredi en Israël, ce qui est aussi une mauvaise appellation, parce que nous sommes tout autant Haredim qu'eux. Je vous rappelle que Haredi veut dire Hared le Dvar Hashem. C'est-à-dire que nous aussi, nous avons une crainte totale de ce que dit Akadosh Baruch Hu. Je me rappelle, il y avait eu une interview qui avait été donnée il y a 2 ans, je crois, ou je ne me rappelle plus exactement, sur Kalita, où avait été interviewé un représentant du monde laïque francophone, un représentant du monde charedi francophone, et un représentant du monde sioniste francophone. Et je me rappelle que le Rav Sadin, qui représentait les charedim, quand il présente le monde charedi, il dit bah, « c'est un monde qui a 3000 ans d'histoire, machin ». Et bon, oui, tout à fait. Et ensuite, il parle du monde laïque, il dit que bon, le monde laïque a aussi des racines, qui a 200 ans depuis même la Révolution française, ta 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 ta. Et après, il dit, et le monde sioniste religieux, et là, le Rav Kling, qui représentait le monde sioniste religieux, intervient, et le coupe et dit, oui, le monde sioniste religieux, qui a aussi 3000 ans d'histoire. Et il dit, oui, bon, ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, nous sommes tout autant charédim et orthodoxes que celui qui porte un chapeau. Donc, je change d'appellation. On va dire, le monde qui n'est pas très fan de Yom HaAtzmaout, alors on va l'appeler comme ça, eh bien, quel est son grief contre les Tzioinim qui ont créé l'État? Ils disent, Oui, ils pensent que c'est eux qui ont tout fait et ils rejettent Akadosh Baruch Hu et ils disent Koichi ve'otzem yodi asa et ha'chayil hazeh. Ils disent le verset qui dit c'est ma force et mon bras qui ont fait tout ça et ils rejettent Dieu. Sans rentrer dans le détail du verset, que c'est une mitzvah de dire ça, parce qu'il y a une suite au verset qui dit Vezacharta et Hashem Elohecha ki hu noten lecha koach la'asot ha'il, et tu te souviendras que c'est Dieu qui t'a donné la force de faire tout ça. Sans rentrer dans ce débat-là, je ne comprends pas. Tu leur reproches au chilonim de dire c'est ma force et mon bras qui ont fait ça et pas Dieu. Mais tu dis la même chose, puisque tu dis toi-même que c'est pas Dieu qui a fait l'État d'Israël, c'est qu'un truc de sioniste. Donc toi aussi, t'es kofer, en fait. Donc réfléchissons deux secondes. Si on admet que Dieu, c'est Melech HaOlam, Adon Olam Asher Malach, eh ben, tout ce qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive. Sauf que Akadosh Baruch Hu, il décide d'utiliser des dévoilements. Des fois, ces dévoilements, c'est des nuées célestes. Et des fois, ces dévoilements, c'est Chayal et Tzahal. C'est lui qui choisit. Comme disait Rabbeinu Yitzhak Abrabanel, Yefchar levater al erech a emtsaim. Les moyens que Dieu utilise sont tous les moyens que Dieu utilise. Tout ça pour dire que donc l'essence de Shavuot, c'est bel et bien Yom HaAtzmaout. Si Pesach Sheni, c'est le moment où on décide de se rattacher à l'identité nationale, Yom HaAtzmaout, c'est le moment où on décide, consciemment ou pas, qu'en fait, ce qu'on veut, c'est un véritable dévoilement de Dieu. Nous aurons plus tard Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, Rabotai. Yom Yerushalayim, on a dit qu'on n'allait pas trop en parler. On ne peut pas ne rien dire, évidemment, sur Yom Yerushalayim. Mais qu'est-ce que c'est Yom Yerushalayim? Mais Yom Yerushalayim, Rabotai, c'est quoi? Je vous pose cette question. Ben oui, je la pose, vraiment. Yom Yerushalayim, c'est à l'origine Milchemet Amalek. C'est-à-dire, c'est la première guerre que le peuple d'Israël va mener. C'est la première fois qu'on va se battre. C'est la première fois où HaKadosh Baruch Hu nous fait confiance. Lorsque les Égyptiens nous poursuivaient, Moshe a dit « Hashem ilachem lachem ». Mais pour Milchemet Amalek, il lui a dit « Ayoshua tseu bechar lanu anashim » C'est-à-dire que ça y est, Yom Yerushalayim, c'est l'essence du moment où Am Israël, eh bien, agit dans les faits, concrètement, pour se réaliser. Entre Yom HaAtzmaout et Yom Yerushalayim, eh bien, nous avons notre journée incroyable. Notre journée incroyable de l'Ag BaOmer. Et je n'ai pas besoin de faire le rappel des événements historiques, car vous les connaissez. L'Ag BaOmer, la période du Omer, c'est le moment où les élèves de Rabbi Akiva et les centaines de milliers d'autres se sont battus auprès de Bar Korva. Oui, et je ne vais pas développer, vous le savez, les élèves de Rabbi Akiva ne sont absolument pas morts d'un rhume, ni d'un espèce de Covid. Ils sont morts à la guerre de Bar Korva. Alors, il est très possible, tout à fait possible, que nombre d'entre eux ont chopé aussi un virus pendant la guerre. Bien sûr. Mais le contexte général de la mort des élèves de Rabbi Akiva, c'est évidemment la guerre de Bar Korva. Tel qu'il est marqué, méfourrache. Mais ça veut dire méfourrache, c'est-à-dire noir sur blanc en lettres de 2 mètres, dans le livre Igeret Rabbeinu Shrir HaGaon. Igeret Rabbeinu Shrir HaGaon, je rappelle, Rabbeinu Shrir HaGaon, c'est Rosh Yeshivat HaGaonim, on est 200 ans après le Talmud, il écrit une Igeret qui est en fait un livre d'histoire. Et il écrit tout simplement une ligne. Ve Rabbi Akiva emit Talmidim Arbe, ve avar Shmada d'Ainu Milchemet Bar Korva, à la Talmidim chez Rabbi Akiva Vechoule. Bon, il est très clair, hein. Il dit voilà, Rabbi Akiva a mis plein de Talmidim et il y a eu la guerre de Bar Korva et qui sont morts dans la guerre de Bar Korva. Voilà. C'est tout, terminé. En une ligne, il a réglé le problème. Les élèves de Rabbi Akiva et les centaines de milliers d'autres, comme j'ai dit, ont participé à ce moment où Am Israël a tenté de retrouver son indépendance. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que Rabbi Akiva, Bar Korva, étaient des fous ou est-ce qu'ils étaient porteurs d'un espoir? Alors, sans rentrer dans tout simplement de la géopolitique historique, est-ce qu'on avait des chances dans cette guerre de Bar Korva? Non et oui. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune chance dans la façon dont, sur le papier, vous savez, on fait la feuille de match. Sur la feuille de match, on n'avait aucune chance. Dans les faits, on aurait pu avoir une chance. Et dans les faits, on a failli avoir une chance. C'est-à-dire que sur la feuille de match, l'Empire romain d'Adrien est au top de sa puissance. Nous, on n'est pas grand-chose. On n'a aucune chance. Dans les faits, on aurait pu avoir une chance si la révolte qui avait eu lieu quelque chose comme, attendez, je te fais un calcul vite fait, 15 ans auparavant, car il y a eu une révolte 15 ans avant la révolte de Bar Korva, qui s'appelle la révolte des communautés de diaspora, des communautés d'Alexandrie, de Libye, de Chypre, tout ça, machin. Toutes ces communautés juives là-bas se sont révoltées contre l'Empire romain, et ça a été très difficile pour l'Empire romain de mater ces révoltes-là. Si on s'était mis d'accord entre Israël et là-bas et qu'on avait coordonné les attaques au même moment, beaucoup d'historiens pensent que les Romains n'auraient pas pu repousser cette révolte-là. Malheureusement, vous connaissez les Juifs, on ne s'est pas mis d'accord. Ça me fait penser, alors on a dit qu'on ne parlerait pas trop de Jérusalem, mais vous savez, en 1948, on a failli avoir Jérusalem. Ben oui. Comment ? Ben tout simplement parce qu'en 1948, il y a eu 3 attaques sur la vieille ville de Jérusalem pour la libérer. Mais le problème, c'est qu'elles étaient faites soit par la Haganah, soit par le Hetzel, soit par le Lehi. Et qu'ils étaient trop préoccupés à ne pas s'aimer pour se réunir et coordonner une attaque qui aurait battu la légion jordanienne là-bas. Malasot. Vous connaissez les Juifs, non ? Résultat des courses, donc on aurait pu avoir une chance contre les Romains. Et je dis, on a failli avoir une chance, parce que dans les faits, ben le fait que les Romains aient été obligés d'envoyer entre 12 et 14 légions pour mater la révolte de Bar Korva montre ben, qu'on a failli réussir. Au final, on a failli réussir. Finalement, on a été submergé, mais on a failli gagner. Et non seulement ça, mais les Romains ont subi, en Judée ici, l'une des plus lourdes défaites qui ait jamais été enregistrée dans l'Empire romain. Ils ont eu des défaites, l'Empire romain, mais jamais une légion n'avait été décimée en entier en une journée. Une légion, c'est près de 20 000 hommes, attention. Hein. La 22e légion a été complètement décimé en une journée par les hommes de Bar Korva. Et lorsqu'on lit Diocasius, l'historien romain, qui nous rapporte les faits, eh bien il dit que ça s'est passé à une journée de printemps assez chaude, une journée de printemps que les Juifs ont décidé, les années suivantes, de commémorer en jour de fête. Tiens donc. Il va même plus loin en disant que c'est une commémoration où les Juifs commémorent la guerre. C'est pourquoi d'ailleurs, eh bien, il y aura des décrets qui seront faits contre eux à ce niveau-là. Une journée où les Juifs commémorent la guerre. Je croyais pourtant que l'Akba Omer, c'était Rabbi Shimon, c'était la Kabbalah, c'était tout ça. Oui, ça l'est devenu. Mais l'Akba Omer, c'est quoi son minhag le plus ancien, vous le savez, c'est de tirer à l'arc. Parce qu'on commémorait la victoire contre la 22e légion qui s'est passée le jour de l'Akba Omer. L'Akba Omer aurait pu être donc le point de référence de la Géoula contre les Romains. Malheureusement, ça n'a pas réussi. Mais ce qui a réussi, c'est que l'Akba Omer est devenu le symbole de la journée où on a essayé. Où on n'a pas perdu espoir. Vous savez, lorsque le sionisme moderne s'est créé, il avait besoin de mythos, de mythes fondateurs, de héros vers qui se retourner. Malheureusement, pendant 2000 ans d'exil, le juif n'était plus vraiment un héros combattant. Il fallait donc se trouver des héros combattants. D'ailleurs, entre parenthèses, les juifs se sont inventés des héros combattants. Vous les connaissez ? Vous ne connaissez pas les héros combattants inventés par le peuple juif ? Mais si ! Ils s'appellent Superman, Batman, Spider-Man, Captain America. Bon, lui, il est moins juif que les autres. Mais ils ont tous été inventés par des juifs. Tous les dessinateurs qui ont inventé ces icônes du combattant, c'était des juifs. Qui, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, avaient besoin de s'inventer des héros. Bien, les amis, nous avons également inventé nos héros à nous, bien évidemment. J'entendais une conférence hier donnée par Ariel Assaf, qui a été également enregistrée par l'Ilmod. Il a fait référence également à notre petit héros gaulois. Bien sûr, mais bien sûr, ça c'est une révélation extraordinaire, extraordinaire. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur. Et là, je vous le dis, j'ai eu l'honneur, je ne sais pas si on a des Niçois qui nous écoutent, mais j'ai été une fois dans ma vie à Nice. Enfin, je me suis baladé sur la programme des Anglais, voilà, vite fait. En fait, j'ai été envoyé pour animer un week-end de jeudi à dimanche des EI du sud de la France. On m'a envoyé faire des chiouribles là-bas, nanana. Et donc, dimanche après-midi, on m'a ramené à Nice, mon hôtel était à Nice, parce que je prenais l'avion de Nice le lendemain pour retourner en Israël. Vous savez, les avions, c'est on dit Zatzal pour les avions ou on ne dit pas Zatzal ? On dit Refou Hachlema, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'étais donc à Nice pour la soirée. J'ai demandé aux gens est-ce qu'il y avait un restaurant cachère quelque part. Et on m'a donné une adresse du Beit Chabad avec un restaurant pizzeria qui s'appelle le Shem Shamaim. Bon, moi, je dis pourquoi pas, j'y vais. Je me commande une pizza. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Seulement, au moment où je commande la pizza, j'entends au-dessus, à l'étage au-dessus, le Rav qui dit « Minche !» Donc, je demande est-ce que j'ai le temps d'aller prier et que ma pizza, elle ne sera pas… Il me dit « Ouais, t'inquiète, t'inquiète. » Donc, je vais faire Mincha. Seulement, une fois que j'ai fait Mincha, bah, il enchaîne sur Arvit, hein, pas de problème. Je me dis que ma pizza va quand même sacrément refroidir. Et une fois qu'on a terminé Arvit, il ferme les portes de la synagogue. Et il dit, écoutez-moi, on a Minyan, c'est pas tous les ans qu'on arrive à avoir Minyan à cette époque-là. C'est vrai qu'on était 10. Eh bien, tout le monde vient avec moi dans la voiture. Moi, je pensais à ma pizza. Il nous amène dans une espèce de grand van. Et on arrive, il nous emmène, c'est pas une blague, au cimetière juif de Nice. Et là-bas, eh bien, il nous amène sur la tombe de René Goscinny. Incroyable ! Incroyable ! La tombe de René Goscinny, c'était son Yortzeit, c'était sa Iloula ce soir-là. Et donc il a dit, on a Minyan, on va aller faire la Iloula de René Goscinny. Et j'ai eu l'honneur donc de faire un Dvar Torah, il a demandé est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose. J'ai dit, bah ouais, moi, bien sûr. Et en tant que fan d'Astérix, quoi, vous aussi ? Vous aussi, vous avez fait la Iloula ? Ben, Kol HaKavod ! Et donc, ben, j'ai pu faire un Dvar Torah et j'ai amené là-bas la corrélation entre Astérix, Bar Korva et l'idéal de la grandeur juive. Bekitsour, on a toujours voulu s'inventer des héros. Mais là où ça m'a le plus marqué, c'est lorsqu'on entendra un homme qui s'appelle Antek Zuckerman, qui est un des dirigeants de la révolte du ghetto de Varsovie, faire référence à leurs aînés, les élèves de Bar Korva, les combattants de Bar Korva. Ils se voyaient comme étant les successeurs de ceux qui avaient permis de ramener, ben, si vous voulez, l'honneur, la fierté au peuple juif. Le Rav Cherki disait, certes, Bar Korva, ça n'a pas marché. Mais il est possible que s'il n'y ait pas eu Bar Korva, le peuple juif n'ait pas supporté 2000 ans d'exil. Bar Korva a ramené dans la douleur, mais l'idéal que le peuple juif ne peut pas être méprisé sans se relever. Alors oui, à l'époque de Bar Korva, ça n'a pas marché. Mais à notre époque, ça a marché. Et c'est donc totalement normal que bah, le jour de l'indépendance de notre génération n'ait pas eu lieu en Nissan, mais eu bel et bien lieu en Iyar. Il ne pouvait en être autrement. Il ne pouvait en être autrement, car Iyar, c'était le mois de la réussite du peuple juif. Je voudrais simplement terminer en rappelant une petite chose évidente. Alors ça, c'est mon petit côté ashkénaze, hein. Vous m'en voudrez pas. Mais on n'a pas arrêté de parler de Hiloulot ces derniers temps. On a parlé évidemment de l'Hiloula de Rabbi Meir à Pessar Sheni. On a parlé, évidemment, on va en reparler de l'Hiloula, et le Rabbi Nishai va vous en parler en hébreu, de l'Hiloula de Rabbi Shimon aujourd'hui, évidemment. Mais je voudrais rappeler tout de même qu'aujourd'hui, c'est également la Hiloula d'un autre grand monsieur du judaïsme. Je ne le mets pas au niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr que non. Zetana Veze Acharon, il n'y a pas de comparaison possible, bien sûr. Mais c'est quand même aujourd'hui la Hiloula de Rabbi Moshe Isserles, le Réma. Vous savez, celui qui est inscrit en dessous du Shulchan Aruch à chaque fois, le Shulchan Aruch Ashkenaz, si on veut. Le Réma, sa Hiloula, c'est aujourd'hui. Eh bien, le Réma va nous dire quelque chose de fantastique. Bon, il dit plein de choses, mais il dit quelque chose de fantastique. Quand il explique la bracha de Asher Yatzar, il dit qu'il faut terminer donc Baruch Ata Hashem, Rofe Chol Basar, ou Mafli La Asot. Nous dit le Réma, Mazé Mafli La Asot, que Dieu, il est extraordinaire, il fait des choses de ouf. C'est quoi les choses de ouf? Nous dit le Réma, Kosher davar gashmi bedavar ruchani. Le truc fou, c'est qu'il réussit à réunir davar gashmi dans ce monde à quelque chose d'au-delà. Alors, dans le contexte de la bracha, il s'agit de l'âme dans le corps, bien évidemment. Mais dans le contexte plus général, kosher davar gashmi, c'est-à-dire Am Israël po, Bedavar Rouhani, à savoir l'idéal de dévoilement de Dieu que Am Israël doit remplir. Eh bien, quand est-ce que Am Israël a réussi à remplir l'idéal, du moins commencer à réussir, à remplir l'idéal qu'il est le sien? Eh bien, c'est lorsque le mois de Iyar est devenu non seulement plus le mois en potentiel du dévoilement de Dieu, mais le mois où on a commencé à dévoiler Dieu. Ashelanu Lag BaOmer Sameach ve Chodesh Tov Umevorach. Et on se retrouve à la prochaine épisode. À bientôt.
Tout d'abord, on va avec un petit son.
Tu as des questions?